Bonjour Pierre-Michel.
Salut. Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu peux nous présenter ta boîte en quelques mots?
Bien sûr. Donc, je m'appelle Pierre-Michel Motto, je suis avocat et chef de projet sur Legal Pilot. Donc, Legal Pilot, c'est une start-up d'automatisation de documents juridiques. En gros, nous, notre solution permet d'aider les professionnels du droit, donc les juristes d'entreprise et les avocats, à automatiser la partie récurrente de leur activité, notamment la partie récurrente de la production de documents, donc rédaction à proprement parler, mais ça peut être aussi des choses qui tournent plus autour de la collecte et du traitement d'informations. Donc le produit permet vraiment de rendre l'automatisation accessible à n'importe quel avocat, peu importe son background, et surtout sans notion de code ou de compétences en informatique préalable.
D'accord. Et dans quelle matière?
Y a pas de spécificité par matière. En fait, c'est vraiment un produit qu'on a conçu pour d'une manière généraliste pour qu'il puisse s'adresser à un maximum de cas d'usage dans le domaine du juridique. On est vraiment focalisé sur les process de rédaction eux-mêmes et de conception des automatisations. Donc, du coup, on n'a pas une approche par matière, même si, pour être transparent, on a quand même construit le produit sur la base de besoins qui sont liés plutôt au départ en corporate et en droit des contrats et en droit social aussi un peu.
D'accord. Et toi, en tant qu'avocat, ta spécialité à l'origine, c'est quoi?
Alors moi, à l'origine, j'ai fait une formation en droit international privé, donc droit des affaires privées, avec notamment une partie de ma formation en Angleterre et le CAPA. Donc j'ai exercé comme avocat et je suis toujours avocat depuis 2013.
Et donc, dans le cadre de ton activité, tu utilises, j'imagine, Legal Pilot.
Oui. Alors
Oui.
maintenant, mon activité est quand même vraiment à 100% sur la start-up, mais j'ai eu une phase aussi qui était assez intéressante où justement je crash-testais le produit sur la base de mon activité réelle, ce qui est hyper intéressant pour pouvoir si vraiment l'outil est utile et pertinent. Et donc effectivement, je l'ai utilisé notamment pour des sujets en corporate, donc ça peut être la rédaction d'approbation de compte, de documentation liée à la société, donc des PV d'AG, des choses comme ça. Et pas mal en contrat aussi, notamment sur des contrats assez répétitifs, type des NDA, des choses comme ça.
Et l'avantage de ce produit-là, c'est quoi? C'est le gain de temps et en termes de rédaction et de recherche?
Oui, exactement. L'avantage principal, c'est vraiment la productivité, donc la capacité à gagner du temps sur les tâches répétitives qui sont liées à la rédaction. Donc typiquement, en fait, l'idée du produit, ça va être de construire un template ou une série de templates qui vont être dynamiques. C'est-à-dire que, à l'inverse des templates qu'on utilise classiquement dans le juridique, c'est-à-dire un document Word de référence dans lequel on va venir remplir les trous, là, on va vraiment créer un système automatisé où, en fait, à côté du template, on va créer un questionnaire qui va automatiquement remplir les bons champs et appeler les bons blocs de clauses et de
D'accord.
textes. Donc effectivement, le premier gain, c'est sur le gain de temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce paramétrage-là est fait, enfin, le gain de temps en termes de rédaction est hyper substantiel. On parle de 50 à 80% généralement de gain de temps. Mais si je prends un exemple, par exemple, d'un NDA, bon, ben, un NDA classique, même sans qu'il soit forcément très compliqué, on passe rapidement un quart d'heure ou 20 minutes juste à utiliser le modèle, hein, même quand il y a un modèle existant. Et dans notre système, on parle d'un gain de temps, enfin, de l'ordre de 2 minutes, quoi, pour rédiger le document.
D'accord. Donc, la plus-value, elle est vraiment dans la pratique juridique. Et le fait que tu étais avocat et que tu aies utilisé ton produit, ça t'a permis de faire le pont entre ton métier d'avocat et ce qu'on appelle chef de produit ou chef de projet ou product owner pour être à la mode. Et donc, c'est quand même un grand écart. Et comment tu as fait pour appréhender enfin, ce nouveau métier?
Oui, complètement. L'idée, c'est que le background d'avocat sert à construire un produit comme celui-là, puisque ça nous permet de faire ce qu'on appelle les spécifications, c'est-à-dire déterminer ce que doit faire le produit et comment il doit le faire. En termes d'évolution des compétences pour arriver à ça, Ça s'est fait, je dirais, de deux manières. De première part, quand j'ai commencé ce projet-là, je me suis formé avec des systèmes de ce qu'on appelle les MOOC, les cours en ligne, qui permettent d'obtenir des certifications sur divers sujets sans forcément avoir de background dans les matières qu'on apprend. Je recommande d'ailleurs un site, moi, que je trouve génial, qui est le site Open Classrooms, qui permet vraiment d'avoir une formation en quelques heures sur à peu près n'importe quel sujet. Et pour partie, ce cours dispense des formations notamment gratuites et certifiantes. Donc, j'ai commencé par là. J'ai fait mon socle de connaissances de base liées aux aspects techniques du métier, comme ça. Donc, c'est-à-dire formation tout ce qui est les composantes base du web, donc les langages HTML, CSS, un peu de JavaScript. Et puis, on va dire la culture générale technique, comment ça marche un serveur, les notions d'infrastructure, de cybersécurité, etc. Et à côté de ça, mécaniquement, j'ai énormément appris au cours de la réalisation du projet en lui-même, et notamment au contact des développeurs qu'on a embauchés depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et c'est vraiment un échange réciproque, c'est-à-dire qu'on est une sorte finalement de lab où on merge vraiment les cultures juridiques et techniques. Les développeurs sont hyper curieux aussi de comprendre comment ça marche le droit, comment on l'utilise. Eux, ils font pas mal de parallèles sur les systèmes de règles qui existent dans les codes, qui existent dans le code informatique. Sur nous, le système de hiérarchie des normes, par exemple, qui est un système très, très organisé. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Et à l'inverse, nous, les profils juridiques apprennent beaucoup aussi au contact des développeurs.
Et donc, en tant que product owner, tu as dit que tu avais pris quelques leçons chez Open Classroom. Est-ce que ça t'arrive de coder ou pas du tout? Ou tu as plus maintenant ce rôle de chef d'orchestre?
Alors, non, je ne fais pas de code à proprement parler. Ce que j'ai appris, c'est surtout une vision d'ensemble assez transversale des sujets techniques qui permettent d'interagir avec différents métiers.
D'accord.
Je ne pratique pas le code pour la simple et bonne raison qu'en fait, je serais extrêmement inefficace sur cet exercice. C'est-à-dire que je pourrais, mais je prendrais 10 heures là où nos développeurs...
On ne peut pas être bon partout. Hein.
Voilà. Enfin, disons qu'on peut, mais je pense par phase, quoi. Disons que si je me mettais à faire ça, il faudrait vraiment s'y mettre sérieusement, se reformer pendant 1 ou 2 ans probablement, et surtout pratiquer. C'est comme le juridique, les matières qu'on ne pratique pas, on ne peut pas être bon juste sur la base de la théorie, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle je code pas, en termes concrets au quotidien, je ne code pas, mais par contre, effectivement, le rôle de chef de produit, de ce qu'on appelle de product owner, on peut effectivement l'écrire comme ça, c'est un rôle un peu de chef d'orchestre qui consiste à, comme je disais tout à l'heure, donc déterminer ce que sur le papier le produit doit faire, surtout déterminer ensuite comment il doit le faire et aller dans le détail ce qu'on appelle. Dans la méthode agile, c'est des méthodes de développement web, les user stories, c'est-à-dire typiquement déterminer, je suis sur telle page de l'application, je clique sur tel bouton qui doit se trouver à tel endroit, il faut que l'action qui en résulte soit la suivante et que ça m'emmène sur telle page et que ça fasse telle action. Donc en fait, quand on arrive dans le détail des spécifications, c'est un travail qui est très très précis et qui doit vraiment mêler la compréhension du besoin métier et la compréhension des faisabilités techniques pour arbitrer pour prioriser notamment. Donc déterminer qu'est-ce qui va être le plus utile pour les clients, qu'est-ce qui va être le plus utile pour le produit, pour l'évolution, pour aller chercher des nouveaux clients, et en même temps, comment j'explique à mon équipe technique, comment je priorise avec eux sur ce qui est le plus logique en termes de qu'est-ce qu'on fait avant quoi. S'il y a des choses qui sont très compliquées, on va essayer de les mettre de côté ou de les contourner. Ou en tout cas de prioriser d'une façon qui soit cohérente aussi pour l'équipe technique.
Ok. En fait, c'est quelque chose que j'avais remarqué, c'est que faire collaborer des métiers différents, c'est assez compliqué parce qu'on a des modes de fonctionnement qui ne se correspondent pas forcément. Et nous, on utilise par exemple un outil qui s'appelle Aura. C'est un outil de gestion, donc ça permet vraiment de prioriser les tâches et de savoir qui fait quoi, quand. Et c'est également parfait pour timer les différentes phases du projet. Toi, tu utilises quoi comme outil?
Ouais, effectivement, ce type d'outil est juste essentiel en fait pour la collaboration inter-équipe. Alors nous, dans une première phase, on a utilisé les outils les plus connus et puis surtout qui sont gratuits au début pour démarrer, notamment Trello. Trello qu'on a pas mal utilisé, qui est un planificateur de tâches collaboratif. Et Slack pour la partie en gros messagerie d'entreprise, quoi, qui est très flexible. Et à côté de ça, on utilise un système, enfin on utilise un Google Doc, quoi, pour partager les différents documents et collaborer sur les documents. Mais pour la répartition des tâches à proprement parler, ouais, on utilisait Trello, et récemment on est passé sur Planner, qui est l'équivalent de Trello sur la suite Microsoft Office, qui fait à peu près les mêmes choses, qui est un peu plus simple, un peu moins puissant, mais en gros voilà, qui permet, c'est en gros une usine à post-it, c'est ce qui permet de créer, diviser ouais. les tâches en post-it et de prioriser, déterminer des échéances, déterminer si on a besoin de validation ou de confirmation de la part d'un membre de l'équipe. Et le gros intérêt, c'est que vraiment ces outils-là permettent d'avoir une vue d'ensemble de où on en est dans le projet, vraiment de manière globale, quoi. Où en est l'avancée du développement de telle ou telle fonctionnalité, quelles sont les difficultés qu'on rencontre et comment on peut anticiper et piloter le développement de l'activité.
Et tu vois, ce que tu dis, c'est très important, parce que quand tu ne fais pas partie en fait, d'un noyau dur comme ça, c'est très compliqué, je pense, de pouvoir externaliser ce genre de travail. Nous, on y songe pour certaines tâches. Je crois que vous avez essayé, non, d'externaliser au départ votre projet. Et pourquoi ça ne s'est pas super bien passé, on va dire. Enfin, en tout cas, ça n'a pas atteint l'objectif que vous vouliez avec ton équipe.
Ouais, tout à fait. Effectivement, il y a une première phase du projet dans laquelle notre réflexion était de dire que nous, notre valeur ajoutée en tant que juriste, c'est le juridique, et qu'a priori, on n'a pas les compétences pour construire un produit. D'où l'idée de se dire, on va trouver un partenaire compétent et bien évidemment échanger avec lui pour que lui nous fasse la partie technique. Donc, on a eu cette première phase qui a duré une dizaine de mois, avec beaucoup de réunions, avec une méthode de gestion de projet agile qui est proche de celle que je viens de décrire, mais avec la partie externalisée. Et en fait, ça n'a pas été un échec total, parce que ça nous a permis de mieux comprendre tout un tas de choses, aussi mieux nous questionner sur la priorisation de différentes choses dans l'outil, sur l'utilité de certaines fonctionnalités ou pas. Mais je pense que ce qui fait que pour nous, ça n'a pas pu fonctionner, c'est qu'il y avait un besoin de maturation et de spécification fonctionnelle qui était très fort. Par là, je veux dire que typiquement, on n'aurait pas pu construire de vrais cahiers des charges au démarrage du projet, parce qu'on avait besoin de cette phase vraiment de test and learn, qui est hyper courante chez les startups, c'est-à-dire je construis une version minimale du produit, j'essaye de faire des démos, j'essaye d'avoir des bêta-testeurs et j'essaye d'avoir du feedback, c'est-à-dire voilà, qu'on puisse très rapidement se rendre compte qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, comment on repriorise. Et en fait, le fait d'externaliser, on était déjà dans un process qui était trop rigide vis-à-vis de ce besoin de flexibilité-là, puisque finalement, on était quand même dans un process où on donnait nos demandes, entre guillemets, on échangeait avec eux, et la phase de construction était assez longue, et au final pour nous, ça a pris une dizaine de mois, et au bout d'une dizaine de mois, on s'est rendu compte qu'on avait un produit qui était invendable, quoi, et le fait par la suite d'avoir internalisé ça nous permet une beaucoup plus grande fluidité sur le pilotage du développement. Puis comme je le disais tout à l'heure, le fait que qu'on ait des personnes dédiées à l'équipe qui comprennent aussi le projet d'entreprise, c'est-à-dire des gens qui comprennent pourquoi on fait les choses. On parle souvent du why dans les startups, c'est quoi le ressort intrinsèque qui nous motive à faire ce qu'on fait. Et ben ça, on partage avec l'équipe et avec la partie technique de l'équipe. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus enrichissant parce que hyper régulièrement, on a des développeurs qui se disent « Ah bah oui, mais attendez, j'ai une nouvelle idée de fonctionnalité parce que est-ce que vous n'avez pas un problème quand vous êtes à telle étape du processus et comment ils font les avocats quand ils sont bloqués ici ?» Et au final, ça fait émerger plein d'idées et en termes de productivité et de pertinence des développements, je pense qu'on y gagne énormément.
En fait, le produit, pour qu'il aille bien, il faut le vivre de l'intérieur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois. Et la notion d'équipe, elle est essentielle. Et je trouve que recruter des gens, c'est un exercice vraiment compliqué. Comment toi, tu fais? Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de recette magique. Donc, un petit retour d'expérience, ce serait sympa.
Oui, alors ouais, effectivement, c'est un des gros challenges des startups, d'autant plus dans la legal tech, puisqu'on est par définition sur des profils qui sont hyper hybrides, sur des job descriptions qui n'existaient pas il y a 2 ans. Donc, déjà, la première étape de savoir identifier, nous, nos besoins, c'est déjà un challenge. Est-ce que j'ai besoin d'un marketeur? Est-ce que j'ai besoin d'une personne qui va me faire du contenu, d'un community manager, d'une personne en stratégie? Généralement, on a des besoins qui sont très transversaux. Donc déjà, la première étape, c'est aussi ça. C'est aussi de comprendre les différents métiers qui sont liés à l'activité qui gravite autour de la startup. Donc, nous, on est pour le coup dans un business model en SaaS, donc software as a service, en B2B. Voilà, il faut déjà comprendre quels métiers sont impliqués là-dedans, comment les tâches se divisent et de quelles compétences on a besoin. Une fois qu'on a fait ça, on peut déjà faire une fiche de poste et puis déterminer quels sont nos besoins. Et ensuite, pour le recrutement, effectivement, il n'y a pas de recette miracle. Pour être transparent, on a fait pas mal de recrutements. Je dirais qu'on s'est planté quasiment la moitié du temps, parce que c'est vraiment pas facile. C'est pas spécifique aux startups, mais le recrutement, c'est vraiment un métier. Hein. Il y a plusieurs techniques, mais nous, on a toujours, jusque-là, on a vraiment essayé de prioriser un recrutement assez, ça paraît être une platitude, mais basé sur l'humain, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye aussi de... On est beaucoup dans une approche où on se dit qu'on va faire les bonnes rencontres. Donc, on connaît nos besoins. Il y a, par exemple, ça fait quasiment 1 an qu'on est en recherche du profil magique pour la vente, qu'on n'a pas trouvé, donc on ne force pas au point d'aller chercher une agence qui va nous sourcer un sales. On est dans une démarche aussi où on parle avec notre réseau, on parle avec des gens qui sont dans la même industrie que nous. Et voilà, on cherche beaucoup la recommandation, en fait. Pour nous, c'est vraiment un facteur de rassurance, quoi, de recruter quelqu'un qui nous a été recommandé, qui a l'expérience pertinente. En complément de ça, je dirais que, alors pour les startups spécifiquement, il y a des recrutements qui sont intéressants, qui présentent leurs challenges aussi, mais qui sont intéressants, notamment, je pense, aux alternants pour les profils, que ce soit commerciaux, marketing ou techniques. Donc, ce qui est intéressant, c'est que financièrement, ce n'est pas aussi lourd à porter qu'une embauche de CDI classique. Ça présente des challenges aussi, au sens où l'alternant, il n'est pas toujours là. Il a une partie de formation à l'école. Et puis,
il faut le former aussi.
Et il faut le former, effectivement. Mmh. C'est l'autre gros challenge, c'est qu'il faut le former. Et s'il est seul sur son job, a priori, on n'a pas forcément la compétence pour le former dans sa matière. Donc, c'est un challenge aussi. Mais encore une fois, si on fait le bon recrutement, avec des personnes qui sont motivées, qui croient au projet, qui ont envie d'apprendre, ça se passe bien.
Je voulais rebondir sur quelque chose que tu avais évoqué. C'était l'aspect commercial. Parce qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, parce que bon, vous êtes une start-up, vous êtes combien déjà ?
Là, on est une dizaine dans l'équipe actuellement.
Donc ça, c'est bien, ça commence à faire. Mais ceci dit, toi, du coup, tu as quand même plusieurs casquettes. Et je crois que tu as aussi la casquette commerciale. Tu disais que tu avais du mal à sourcer en fait ce type de profil, des profils donc commerciaux qui s'intéressent au SaaS, plus particulièrement au Legal Tech. Donc, ça fait quand même beaucoup de couches. Le premier commercial, en réalité, c'est toi. Et est-ce qu'à la base, tu avais cette fibre-là ou c'est quelque chose que tu as développé? comment tu as fait pour avoir tes premiers prospects? C'est parce que je pense que faire du B2B, déjà, faut quand même un peu de subtilité. Mais en plus, quand on évolue dans le milieu des legal tech, j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué.
Ah, effectivement, c'est un gros challenge le commercial parce qu'il y a ces différentes strates de complexité. Parce que déjà, effectivement, on est sur du B2B et en plus, nos cibles, c'est des professions intellectuelles et pour partie, parce que nous, on vend à des directions juridiques et à des avocats, pour partie, en plus, c'est des professions réglementées. C'est des professions qui ont un ensemble de codes, qui ont un ensemble de... qui requièrent un certain niveau d'interaction qui est pas forcément facile à intégrer pour quelqu'un qui vient pas de ce milieu ou qui a pas travaillé avec au côté de profils comme cela. Donc effectivement c'est pas évident. Je pense comme tu le dis à juste titre, en tant que fondateur de start-up, t'es forcément le premier commercial, c'est-à-dire que ne serait-ce que pour passer dans les phases que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le test and learn, être capable d'aller chercher du feedback, être capable de trouver les premiers clients, il faut forcément que entre guillemets, que les fondateurs s'y collent eux-mêmes. Bon, moi, à titre personnel, c'est une partie de mon boulot qui prend de plus en plus de place aujourd'hui, notamment pour les ventes complexes, qui requièrent vraiment un niveau d'expertise entre le besoin métier et entre la partie technique. Donc, c'est là où ça mêle vraiment les deux rôles de juriste et de chef de produit.
Mais alors, du coup, c'est compliqué parce que finalement, quand tu es commercial, il faut aussi que tu aies des notions en juridique et aussi que tu gardes en tête qu'il faut synthétiser les spécificités et les specs techniques et juridiques. Donc, tu n'es pas juste commercial.
Oui, alors ça, je pense que c'est spécifique à notre boîte en l'occurrence. Je pense qu'en fait, il faut se poser les bonnes questions par rapport à ces profils-là et par rapport à l'organisation des tâches dans la vente. La vente pure, il y a une partie de la vente qui n'est pas technique et qui ne doit pas l'être. Au contraire, c'est notamment le début de la vente doit être focalisé sur les besoins de la personne à qui on s'adresse, c'est-à-dire comprendre ses besoins et être capable d'illustrer comment le produit peut y répondre. Cette dimension-là, elle est très très peu technique. Il faut simplement savoir faire une démonstration du produit et avoir compris l'intérêt et les cas d'usage et comment le produit peut être utilisé. Donc potentiellement, en fonction de ce qu'on vend, c'est une partie de la vente qui peut être externalisée confiée à des profils qui n'ont pas forcément de background juridique ou pas forcément de background technique. Après, sur les ventes plus complexes en B2B, alors encore une fois, ça dépend de ce qu'on vend et à qui on le vend, mais par exemple, nous, sur les ventes complexes, la difficulté, c'est qu'on a plusieurs interlocuteurs. On va avoir des gens qui sont en gros des utilisateurs potentiels de la solution, donc des juristes par exemple chez nous. On va avoir des gens qui sont décideurs avec ou pas un profil juridique, par exemple un directeur de service, un directeur juridique, et on va avoir aussi la DSI, la direction informatique. Donc là, c'est pas le même langage, on ne parle pas des mêmes choses, et potentiellement, dans certaines boîtes, on a aussi la direction générale ou la direction de la transformation numérique. Toutes ces personnes-là, on ne leur dit pas la même chose et on ne leur dit pas au même moment. Et potentiellement, dans une grosse boîte, on peut avoir des interlocuteurs différents pour chacune de ces phases. Bon, tout ça pour dire qu'en tout cas, dans le cas d'une start-up, la clé au démarrage, c'est de comprendre comment se structurent les phases de vente. C'est-à-dire comprendre quels sont les processus de décision de nos cibles, comment eux ils fonctionnent, quel est le timing, quels sont les ressorts d'achat, les ressorts psychologiques, et essayer d'identifier ça le plus vite possible, parce que le plus vite on comprend ça, le plus vite on peut faire en gros une recette qu'on, derrière on pourra déléguer à d'autres profils et qu'on pourra diviser.
D'accord.
Et il y a une partie de ça, je pense, qui est commune à la vente d'une manière générale, et je pense aussi surtout dans les legal tech que il y a une grosse partie de ça qui s'apprend sur le terrain, au contact de ta cible, des personnes à qui toi tu parles. Il y a une partie de quasiment d'intuitif. Enfin, on parle souvent des personas en marketing, mais en fait, nous, on est beaucoup dans cette démarche où on reconstruit des personas à partir d'un groupe de gens en se disant « J'ai parlé à tel et tel avocat, il m'a dit ça, ça et ça. Ah bah oui, ils ont tel point commun, donc mon persona, je vais construire sur la base de ces retours réels. »
Oui, en fait, c'est une approche assez empirique. Et vu que tout ce qui est legal tech, c'est assez récent, dire hop, mon persona, il est comme ça, ce serait presque trop simple.
Je pense que c'est pas forcément à moins que tu aies un recul et que tu aies déjà vendu des choses similaires à des personnes similaires, mais honnêtement, et on en parle avec d'autres fondateurs de Legal Tech, pas qu'en France hein, d'ailleurs, c'est un marché qui est vraiment nouveau, ça change beaucoup. Enfin, rien que pour prendre cette illustration-là, la réglementation applicable sur les choses autour du périmètre du droit, des professions réglementées, c'est des choses qui ont énormément bougé ces 4-5 dernières années. Comment les professions professionnelles de droit s'emparent du numérique dans leur quotidien, c'est des choses qui bougent beaucoup. Et très honnêtement, je pense que, par exemple, la recette que j'évoquais tout à l'heure de vente qu'on applique nous en ce moment, je pense que dans 6 mois, elle a bougé parce que le marché a bougé. Parce que les cibles sont de plus en plus matures et cherchent des choses différentes. Donc oui, c'est très, très empirique. Et à mon avis, il faut que ce le soit si on veut que ça marche.
Et aujourd'hui, concrètement, t'approches tes prospects de quelle façon t'ouvres l'annuaire et tu les appelles, ça se passe comment?
Alors là, pareil, on a essayé différentes choses. On applique différentes recettes, mais encore une fois, c'est des choses qui sont en perpétuel mouvement puisqu'on essaye de vraiment trouver la meilleure approche. Grosso modo, il y a une couche de fond qui est de l'inbound marketing, donc en gros, qui est une approche qui consiste à être visible et à parler à nos cibles là où elles sont. Donc, par exemple, on sait que nos cibles, nous, on vend de l'automatisation documentaire, on sait, par exemple, que nos cibles ont aussi un sujet signature électronique parce que généralement, ils gèrent ces deux sujets-là en même temps. Donc, par exemple, on va essayer d'être présent, par exemple, sur LinkedIn, sur des cibles qui vont chercher des choses autour de la signature électronique. Et là, on va leur dire, vous avez une problématique de signature électronique. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de votre production documentaire? Est-ce que vous avez besoin aussi d'automatiser une partie de la rédaction? Donc, l'inbound, c'est ça, c'est vraiment de donner du contenu pertinent et d'être présent dans des cercles de gens qui vont avoir un besoin potentiellement pour la solution. À la suite de ce process-là, il y a les processus de conversion entre guillemets assez classiques qui se font à la fois en physique et à la fois par de l'automatisation. Donc, en gros, chez nous, ça va être un flux, je clique sur inscription gratuite, derrière, j'ai un flux où j'ouvre un espace de test, et puis derrière, il y a des emails qui sont envoyés pour essayer de qualifier le prospect en lui proposant différentes choses, et surtout en essayant de provoquer un rendez-vous physique pour mieux comprendre, un rendez-vous réel avec un commercial chez nous, pour essayer de bien identifier et comprendre ses besoins particuliers.
Parce qu'en fait, vu que c'est tout nouveau, les avocats, les juristes, ils ont besoin d'être rassurés avant d'acheter. Et il y en a très peu qui achètent sans avoir une explication en amont.
Oui, il y a une partie de ça, très clairement. Il y a une partie de ça. Je dirais qu'aussi, une des difficultés que rencontrent pas mal les gens à qui on parle, c'est que, effectivement, c'est des solutions nouvelles, mais la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'offres sur le marché. Par exemple, toi, en tant que juriste, tu vas au salon de la Legal Tech, tu te dis, de toute façon, tu as plein de sujets en tête. Tu as la communication interne, tu as la production documentaire, tu as l'archivage, tu as la signature électronique. Voilà, il y a plein de sujets, le télétravail. Il y a plein de sujets, il y a plein d'offres. Donc, à mon avis, la difficulté première, c'est déjà de réussir au niveau du juriste à prioriser ce qui doit être fait en premier, ce qui est le plus urgent. La digitalisation, c'est vraiment multifacette. Il n'y a pas que l'automatisation, évidemment. Donc déjà, c'est un premier niveau de difficulté qui est généralement renforcé par le fait qu'on parle de travail en équipe et ça suppose de se mettre d'accord sur, entre guillemets, sur un cahier des charges, sur ce que doit faire une solution. La deuxième difficulté, c'est que sur le papier, quand tu regardes des brochures de Legal Tech, B2B en tout cas, on utilise beaucoup, souvent un peu les mêmes arguments commerciaux. C'est-à-dire que, évidemment, on va tous à un certain niveau parler de productivité, puisque c'est généralement un des premiers bénéfices. Donc après, il faut que nos cibles réussissent à faire le tri là-dedans, à comprendre fondamentalement ce que fait chaque outil, et surtout comment cet outil peut être positionné dans leur pratique. Et quel outil sera le plus pertinent. Après, sur la question de la confiance et de la rassurance, effectivement, moi, je crois beaucoup, nous, dans la boîte, on partage beaucoup l'idée de transparence. En termes de démarche commerciale, ce qu'on fait contrairement aux éditeurs logiciels classiques, c'est qu'on est vraiment axé sur essai gratuit. On a un essai gratuit de 2 mois. C'est-à-dire, tu vas sur le site, tu crées un compte, c'est complètement gratuit, c'est sans engagement, tu ne mets pas ta carte, tu ne seras pas prélevé, tu ne seras pas mailé, spammé. Mmh. Voilà. On fait des promesses sur le site, on dit on a un super logiciel qui fait l'automatisation, on est prêt à défendre cette promesse en laissant les gens tester en autonomie. Donc on croit pas mal à la rassurance déjà par ça, aussi c'est bête, mais ça passe aussi par l'affichage des tarifs. Toutes les legal tech le font pas, les éditeurs logiciels classiques le font très souvent pas non plus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arguments, mais on sait pas combien ça va coûter à la fin. Donc nous on essaie d'être très transparent là-dessus, et moi je constate d'ailleurs dans les calls, dans les démos qu'on fait, que systématiquement au premier rendez-vous c'est des questions qui arrivent. Combien ça va coûter, est-ce qu'on parle de 500 euros, est-ce qu'on parle de 50 000 euros? Dans les solutions de B2B, il y a un gap énorme potentiellement entre les solutions, et effectivement il y a un besoin de rassurance là-dessus.
Et c'est vrai qu'au niveau du tarif, vous n'êtes pas très très cher, je trouve. Et c'est une volonté de votre part, ou c'est…
Ouais,
comment t'expliques un tarif pas du tout excessif? Après, si tu peux, tu peux nous expliquer ça, ce serait…
Ouais, alors la tarification, c'est un sujet vachement intéressant et vachement qui est vraiment plein de challenges aussi pour les startups, parce que on a mis du temps à comprendre. Au début, instinctivement, on s'est dit notre produit, il a une valeur. On sait ce que le produit peut faire. Donc, on avait un peu une fourchette de valeur en tête. Fourchette de valeur qu'on estimait entre, on parle d'abonnement mensuel parce que c'est standard dans notre industrie, mais qu'on estimait entre 300 et 800 euros par mois. Parce que c'est un outil, un outil de productivité important qui permet de gagner beaucoup de temps. Donc, voilà. On a commencé à essayer de vendre le produit avec cette approche tarifaire-là. Avec aussi au départ une approche où on n'avait pas vraiment fait de grille tarifaire. On essayait déjà de comprendre les besoins et de fonctionner au devis. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que ça, c'était assez anxiogène pour nos cibles. C'est-à-dire que quand on présentait cette approche-là, eux entendaient probablement, en fait, s'il n'y a pas de prix, je sais pas bien où je vais, potentiellement, ça va me coûter très cher. Donc, première étape, ça a été déjà de construire une grille tarifaire. Et d'afficher les prix, de pouvoir tester les réactions sur l'affichage déjà du prix au stade de la vente.
Mais c'est-à-dire que tu as testé plusieurs prix, c'est ce que tu as entendu. Oui,
le pricing a changé 3 ou 4 fois.
Ah ouais, et ça vous a pris combien de temps avant de vous dire ce tarif-là, il a l'air bien, on l'affiche comme ça et en avant.
Alors, la première fois qu'on a affiché un tarif, ça a dû nous prendre à peu près 18 mois. Le temps d'avoir déjà suffisamment compris, suffisamment testé nos arguments commerciaux et nos propositions tarifaires. On l'a fait sur la base de redondances qu'on a pu trouver dans les profils des clients, des premiers clients qui avaient acheté la solution. Et depuis ça, on l'a déjà modifié 3 fois, le système tarifaire. On a eu un passage aussi par le freemium, qui est un système tarifaire dans lequel on a une partie du logiciel qui est gratuite. Et l'objectif, c'est de passer les utilisateurs en payant. Ça a été intéressant. On a été en freemium pendant 6 mois, ce qui nous a permis d'acquérir pas mal d'utilisateurs et de nous faire connaître. Donc ça, c'était utile, je pense, à ce moment-là du développement. Et ensuite, on a repositionné le prix sur un système de 2 mois d'essai gratuit et de package tarifaire, en essayant de ne pas avoir 36 prix différents non plus, et pas trop de critères, parce que plus on met de critères, plus c'est compliqué à comprendre aussi. Et je ne dis pas que le pricing actuel ne bougera pas, mais le pricing, ce qui est compliqué, c'est que ça suppose de résoudre beaucoup de problèmes à la fois. Déjà l'impératif de rentabilité, hein, d'être capable de vendre la bonne chose au bon prix et de faire la marge suffisante, et ensuite la capacité par rapport à ce pricing de faire la vente. C'est-à-dire que je pense que le pricing dans une vente joue quasiment chez nous en tout cas, je dirais pour un quart ou un tiers de la prise de décision. Et nous, justement, pour répondre à ta question, le fait d'avoir un système tarifaire qui, en faciès, est relativement agressif et relativement peu cher, on est effectivement à peu près 2 fois moins cher que nos concurrents en faciès, et ça fait partie d'une démarche commerciale qui soutient notre discours de dire que l'automatisation doit être accessible à tous et que ce n'est pas une question de moyens financiers. Donc, c'est vraiment une démarche consciente. Après, entre guillemets, le trick qu'il y a dans notre système tarifaire, c'est que le premier abonnement que tu vois sur le site te donne quand même un accès pas complet, pas totalement complet
bien sûr.
Au logiciel. Voilà. Il permet de répondre à la promesse parce qu'il ne faut pas non plus, hein, si tu n'en donnes pas assez, tu crées de la frustration, donc ce n'est pas bon non plus. Mais il permet de répondre à la promesse qui est de dire, dans notre cas, l'automatisation c'est simple et vous allez voir, en très peu de temps, vous pouvez avoir une valeur ajoutée avec ce produit. Mais dans un deuxième temps, l'idée c'est de dire, si vraiment vous le déployez chez vous, logiquement vous allez basculer sur un abonnement un peu plus élevé.
Et tu disais, pour la décision d'achat, le prix c'est un tiers de l'argument qui va faire basculer le prospect en client, et les deux autres critères, c'est quoi ?
Alors, c'est dur à systématiser parce que évidemment chaque prospect est différent, mais nous, dans notre cas, y a le gros sujet, je dirais, c'est quand même l'adéquation aux besoins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un prospect vient nous parler, il a généralement une certaine compréhension de son besoin, qui est plus ou moins précise et plus ou moins aboutie. Et il essaie déjà d'évaluer lors de la démo, est-ce que ce qu'on me présente à l'écran correspond à quelque chose qui va me servir moi ? Et la réponse à cette question, elle est souvent plus compliquée que ça n'y paraît, parce qu'on est en B2B, nos clients ont tous des activités différentes, ont tous des organisations différentes, même s'il y a des dénominateurs communs. Donc, il faut réussir à faire la démonstration que notre produit va être pertinent pour eux, et un par un, pour chaque prospect. Donc, c'est aussi le sens de l'essai gratuit. L'essai gratuit, il est là pour leur permettre d'évaluer, de tester sur des cas réels si ça va leur apporter une valeur. Donc, le premier sujet dans la vente, c'est répondre à cette question-là, l'adéquation aux besoins. Il y a la question du prix. Et puis ensuite, il y a pas mal de sujets annexes. Mais peut-être pour synthétiser, je dirais que c'est la capacité à se projeter aussi dans la durée avec un outil. Psychologiquement, est-ce que à plusieurs niveaux, est-ce qu'on est capable de rassurer le client sur le fait que dans 3 ans, il sera toujours avec nous, on sera toujours la bonne solution. Étant aussi une start-up, au début, on avait un peu ce challenge-là. On avait des gens qui nous disaient, ouais, très bien, c'est super votre truc, mais si vous mettez la clé sous la porte dans 18 mois, je fais comment ? Donc, on avait aussi ça. Maintenant, c'est un sujet qui se pose un peu moins parce qu'on est plus solide financièrement. On a déjà près de 4 ans d'existence, donc ça se pose moins, mais voilà, il y a plusieurs sujets comme ça auxquels il faut apporter des réponses et pas mal de rassurance, ouais, au niveau de la vente.
Et il y a un autre sujet que je voudrais aborder avec toi, puisqu'on est toujours dans l'aspect commercial, c'est comment tu as fait pour commercialiser ta V1 ? Je sais que c'est en tout cas pour moi, c'est un vrai sujet de stress, hein, quand même. Je trouve que c'est pas évident parce qu'on fait face, quoi qu'il en soit, à des critiques, j'imagine. Et tu as sélectionné des prospects où tu as ouvert les vannes, tu as dit la V1 est sur le marché, vous pouvez y aller.
Alors effectivement, c'est très dur, et tu soulignes à juste titre, je pense que c'est le moment où tu te prends le plus de pain dans ta carrière de start-upper, ce qui n'est pas évident parce que tu mets une énergie de dingue pour essayer de proposer quelque chose qui soit bien, et tu prends beaucoup de critiques, et bon, il faut aussi prendre les critiques et prendre ce qui est constructif, mettre de côté ce qui n'est pas, faire le tri, et puis voilà. Alors, pour la partie de commercialisation de la V1, effectivement, gros challenge. Je dirais qu'il y a probablement deux façons schématiquement de fonctionner. Soit tu es dans une approche où tu vas avoir plutôt beaucoup de petits clients, et auquel cas, il va falloir t'appuyer sur un lancement officiel, en tout cas une annonce officielle, avec sans doute un bout de campagne marketing associée pour dire, voilà, on est lancé, on est prêt. Et donc, il faut sans doute accompagner ça comme ça. Et à mon avis, il faut vraiment focaliser sur le concept de MVP, de Minimum Viable Product, c'est-à-dire qu'il faut développer que ce qui est nécessaire pour tenir la promesse principale que tu donnes. Il ne faut pas en faire trop parce que de toute façon, tu vas changer plein de choses, tu vas pivoter, tu vas encore développer pendant un moment. Donc, je pense qu'il faut tester le plus rapidement possible et avec un produit qui paraisse le plus simple possible du point de vue de l'utilisateur. Je fais une promesse, je tiens cette promesse. C'est vraiment l'objectif, je pense. La deuxième façon, à mon avis, c'est quand tu as moins de clients, mais des plus gros clients. Ce que font, à ma connaissance, beaucoup de startups, c'est que généralement, tu vas trouver tes premiers clients pas mal dans ton réseau aussi naturel, hein, dans ton réseau de contact. Et tes deux, trois premiers clients vont vraiment t'aider à finir de construire ta V1. C'est-à-dire que c'est eux qui vont vraiment te faire ton feedback de manière assez détaillée. Et tu vas généralement faire évoluer la solution par rapport à leurs besoins à eux aussi. Là où il ne faut pas se planter, on a eu ce challenge-là nous aussi notamment, c'est qu'il faut essayer d'arbitrer à ce stade ce qui relève des besoins qui sont communs à toute ta cible et des besoins qui sont spécifiques à ce client-là. Et si tu te retrouves à développer un logiciel, notamment en B2B, c'est rapidement le cas hein, parce que les organisations sont assez différentes. Tu peux vite te retrouver à développer un logiciel spécifique pour un client que tu n'arriveras pas du tout à revendre à côté.
Ouais, c'est le piège, ça.
Ouais, donc c'est le piège un peu. Et tu peux faire de l'argent assez rapidement comme ça. Mais par contre, les perspectives d'évolution ne sont pas les mêmes. Tu vois, si vraiment tu es un éditeur et tu veux vendre à tout un segment de clients, il faut réussir à faire cet arbitrage-là.
D'accord. Et là, vous en êtes à votre V2, V3, V4
Alors, on ne versionne pas, mais oui, on a beaucoup développé, mais on ne versionne pas précisément, mais schématiquement, dans les phases de développement, nous, on considère qu'on est sur la V3, là, et on est en train de passer sur la V4. La V3 qui est en place depuis 2-3 mois, qui tombe bien, qui est bien stable, et la V4 qui est en cours de préparation depuis un mois déjà, et qui sera là, je pense, d'ici la fin de l'année.
Et au niveau commercial, toi, tu te sens comment, là?
Bah là, ça va mieux aussi. Je pense qu'en fait, moi, ce qui me rassure pas mal au niveau commercial, c'est au fur et à mesure de me rendre compte qu'on parle de plus en plus à des gens qui ont les mêmes besoins et qu'on n'a pas complètement tripé au démarrage sur le fait que c'était une vraie problématique. Parce que c'est une chose de dire oui, il y a des problèmes d'inefficience dans la rédaction juridique, c'est une autre chose de rencontrer ton marché et que les gens réalisent qu'ils ont ce besoin et qu'ils sont prêts à payer pour une solution qui résout ce problème. Ça, c'était pas forcément garanti et au fur et à mesure qu'on avance, je me rends compte, je faisais encore une démo ce matin, que oui, le besoin, il est là. Les gens, ils arrivent avec les mêmes mots-clés, les mêmes problèmes et qu'on arrive vraiment à nous à proposer une solution qui est pertinente. Un truc aussi qui rend les choses plus faciles pour revenir un peu sur la question de la V1, c'est que quand tu vends ta V1, tu vends pour une bonne moitié un concept et pour l'autre, au pire des slides, au mieux un bout de truc qui marche un petit peu et qui fait à peu près ce que tu dis. Et ça, c'est quand même très, très compliqué. C'est très compliqué de faire des ventes avec ça en main. À l'inverse, aujourd'hui, quand on fait une démo, on a tous les outils qui sont en place. La plateforme, elle est super stable. Il n'y a pas de bug. On a le CRM en place. Enfin, je veux dire, les choses sont beaucoup plus cadrées. On est vraiment, je dirais pas en mode autoroute, mais c'est quand même nettement plus simple que ça n'a été, quoi.
Oui, alors à ceux qui veulent se lancer dans la création d'un produit SaaS, Legal Tech, les bugs, c'est juste un cauchemar au départ quand on crée le produit parce que à chaque fonctionnalité, ça bug, ça fait bugger d'autres trucs qui marchaient très bien. Et ça, je crois que, surtout que moi, je suis juriste comme toi à la base, on n'est jamais préparé à ce genre de choses. Donc, s'il y a des juristes qui veulent se lancer, il faut être préparé à cette phase de bug qui crée beaucoup de frustration. Et malheureusement, je pense que quand tu commercialises ta V1, tu n'as pas forcément vu tous les bugs.
Ah bah non, bien sûr. Mais oui. Honnêtement, pour prolonger ce que tu dis, ce sujet-là, c'est un sujet constant dans le développement de produits. C'est pas seulement quelque chose qui est sur la V1, c'est quelque chose qui va être tout au long de tes développements. Tu vois, dans le SaaS, c'est ce qu'on appelle un système de développement continu. C'est pour ça que je disais qu'on ne versionne pas tout exactement, c'est-à-dire que parfois, ça nous arrive de faire 2 mises à jour par mois, donc avec à chaque fois une nouvelle version. Quand on fait des versions majeures, on fait évidemment beaucoup de tests, mais par exemple, pour te donner une idée, la dernière version qu'on a sortie, on a fait 2 mois de tests à 6.
Non-stop ?
En filigrane, mais on a fait énormément de tests, quoi, parce qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle. Il y a des techniques d'organisation du développement informatique qui permettent de minimiser les risques de bugs, mais par contre, tu n'enlèves jamais le besoin de tester à 200% ta solution. Et effectivement, quand tu viens d'un background juridique, tu n'as pas du tout généralement anticipé cette complexité-là, quoi. C'est vrai que les produits informatiques, en fait, c'est vraiment un château de cartes hyper complexe avec des interdépendances un peu partout. Donc c'est pas simple déjà de faire fonctionner ça, et c'est encore moins simple de le faire évoluer en enlevant un bout, en remplaçant un autre bout, et en faisant en sorte que ça marche toujours, quoi. Mais ça fait partie du challenge.
C'est partie du job. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions que je voulais te poser. Il y a une question que j'aime bien poser toujours à mon invité, c'est quel conseil tu pourrais donner, je sais pas, à un juriste ou à un avocat ou à un huissier ou à un notaire qui aurait envie de créer une legal tech. Un petit conseil comme ça.
Un conseil déjà, c'est de bien benchmarker ce qui existe. Parce qu'il y a quand même de plus en plus de choses qui existent sur le marché. Si je ne dis pas de bêtises, à date, il doit y avoir quelque chose comme 250 legal tech en France, dont la plus grande partie sont en B2B. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent avec des niveaux de maturité différents. Mais voilà, j'inciterais déjà à regarder ça pour au moins deux raisons. Parce que le premier risque, à mon avis, c'est de réinventer la roue. C'est de refaire quelque chose qui a déjà été fait. Donc, peut-être que ça ne vaut pas toujours le coup et qu'en tout cas, ça peut être sourcé à moindre coût si ça existe déjà. La deuxième solution, c'est que s'il y a des gens qui ont fait des choses similaires, c'est vachement intéressant de voir d'où ils sont partis, ce qu'ils ont fait, où ils en sont maintenant et comment on va pouvoir se positionner soit en concurrence, soit en parallèle de ces offres-là existantes. Donc, bien benchmarker le marché, ce qui est honnêtement très compliqué sur la legal tech puisque ça bouge mais très 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 vite. Par contre, un bon point de départ, c'est de faire les salons professionnels dédiés, donc notamment pour ce qui est de la France, le salon Village Legal Tech, les différents salons Legal Tech. Ça permet vraiment d'avoir une photographie, peut-être pas de l'ensemble du marché, mais en tout cas généralement des acteurs qui comptent sur les différents segments.
Ouais, puis je pense qu'aussi il faut se donner du temps, parce que souvent on se dit oui, dans le monde des startups, t'as une idée, faut y aller. Je trouve qu'en tout cas dans ce milieu, c'est tellement compliqué qu'il faut bien réfléchir en amont, il faut prendre son temps et voir si ça vaut le coup ou pas, tout simplement.
Peut-être un autre truc pour aller dans le sens de ce que tu dis, il y a un truc que je pense peut-être en tant que professionnel du droit, on n'a pas forcément assez présent au départ, c'est qu'avant même de penser à la solution, il faut penser au business model. Comment et est-ce que je vais pouvoir faire de l'argent avec ça? Parce que c'est quand même la finalité et des fois ça passe trop au second plan. Des fois on est trop ah oui, mais il y a vraiment un problème autour de ce cas spécifique, je ne sais pas, dans un office notarial, on va faire un super outil qui va résoudre ce problème. Ok, super, mais est-ce que tu peux le vendre? À quel prix tu peux le vendre? Quelle est la taille de ton marché? Comment tu vas le vendre? Combien ça va coûter de développer la première version? En gros, faire un business plan, mais déjà au moins dans les grandes lignes, avoir très en amont conscience de ces contraintes-là. Un projet, ça ne se fait pas hors sol, ça se fait dans le cadre d'un projet économique qui doit intégrer ces impératifs-là.
Ok, bah, je crois que ce sera le mot de la fin. Donc, écoute, merci beaucoup pour tous ces enseignements. Je pense que ceux qui nous écoutent seront très contents d'avoir tous tes conseils. Et puis, bon courage pour la suite.
Ouais, merci à toi Charlotte et puis à bientôt.
À bientôt.